La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe. Là. C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Cube Radio.
Monsieur Amber.
Monsieur Cassavant, ça va bien, mon ami?
Ça va très bien, toi-même?
Ben oui, super bien, ici en Angleterre. Ça va super bien, température pas pire. C'est bien. Vient d'arriver de le premier événement de la semaine, si tu veux, l'entraînement public. Ici avec Liam Smith puis Chris Eubanks, j'ai vu mon ami Roy Jones aussi, fait que tout va super bien.
On a plusieurs sujets à discuter cette semaine au balado, le dernier round, et Russ, on va pouvoir en parler là, de Eubanks et Liam Smith qui vont s'affronter samedi en Angleterre dans un gros combat à Manchester, je crois. Donc derrière toi, là, c'est-tu dans le lounge en ce moment avec les lumières groovy, là, t'en vas-tu
Non, ça c'est par-dessus mon lit, croyez-le ou non. Ouais, ça c'est mon hôtel, puis ça c'est tout l'éclairage que j'ai. C'est des ampoules de 15 watts là, partout, il y a zéro lumière, man. Zéro.
Ben, écoutez, pour ceux qui nous voient présentement sur le tvsport.ca, sinon vous écoutez sur Cube Radio, merci de votre support. On a des questions des fans qu'on va pouvoir adresser un peu plus tard, des nouvelles concernant des anciens combattants de UFC qui sont maintenant agents libres, que des gens se posent des questions, développement également concernant Christian Mbili qu'on va adresser. Mais Russ, aussi, on va parler naturellement du combat de Kim Clavel et l'événement de Groupe Von Michel la semaine dernière. Mais tu parlais de Roy Jones. Qu'est-ce que tu as dit avec Roy? T'avais-tu le droit de parler concernant, tu sais, tu vas quand même être contre lui dans le coin adverse la semaine prochaine ou ce samedi, je devrais dire.
Première chose, lui ai dit, c'est que, à part de allô, puis comment ça va, c'est que ça me faisait de la peine d'être contre lui, puis il m'a dit la même chose. Mais il dit que chaque boxeur a amené leur équipe A. Le combat a tellement d'importance qu'ils ont amené l'équipe A. Fait qu'on devrait être fiers que c'est nous qui se font appeler pour travailler dans un événement si gros que ça. Puis ça me ramène des beaux souvenirs, ça, Matt. T'sais, ça fait longtemps que je travaille avec Liam Smith. J'étais là, quand j'étais dans son coin quand il a gagné le titre mondial. J'étais dans son coin quand il s'est battu contre Anthony Fowler, un autre combat local à Liverpool. Ça me donne des souvenirs de qu'est-ce que la boxe a été à Montréal quand deux locales ils s'affrontaient. Puis quand je dis local, ça se peut que ça soit un gars de Halifax contre un gars de Montréal ou un gars de Toronto contre Montréal, mais ça c'est quand même local pour nous. Puis en tout cas, c'est quelque chose de spécial que je vis présentement et d'être dans un combat aussi important, aussi émotionnel, si tu veux, pour ceux qui participent là-dedans, parce que là, dans l'aréna, tu vas avoir les clans des deux boxeurs dans l'aréna et de travailler dans le coin où, sur six hommes de coin, il y a Roy Jones dans un coin puis Russ Amber dans l'autre. Fait que c'est quelque chose de spécial pour moi.
Première fois que tu vas être contre Roy depuis son combat de Otis Grant?
Oui, c'est vrai. J'ai même pas pensé à ça. J'aurais dû
dire ça demain. Parce que Roy a fait la transition comme entraîneur et Eubanks, c'est probablement un de ses plus gros clients, mais je pense qu'il n'y a pas, tu sais, ça fait pas si longtemps qu'il travaillait avec, il était plus avec, là, il est revenu. Chris Eubanks, c'est quand même un boxeur qui a beaucoup de following en Angleterre, un peu aussi à l'international. Il était impliqué dans la situation de Conor Benn, qui est supposé être un gros combat en Angleterre il y a quelques mois. Conor Benn, avec les tests de dopage positifs, a été mis de côté. Là, son premier combat, Eubanks face à Liam Smith. Eubanks est le favori, je crois, de samedi, n'est-ce pas?
J'en ai. Tu veux dire officiellement par ouais. les... je sais pas. Je suis pas les gageurs, Matt. Tu le sais, comment qu'ils gagent, je sais pas. Mais une des commanditaires, c'est bet quelque chose, bet 360 ou bet 365, quelque chose, je sais pas trop quoi. C'est une de leurs commanditaires. Fait que sûrement, il y a des cotes dessus, mais j'ai aucune
idée. Mais je veux dire, est-ce que Liam Smith, pour ceux qui peut-être l'oublient, avait déjà affronté à une époque Canelo Alvarez également, dans un de ses plus gros combats?
Oui. J'étais dans son coin pour ce combat-là aussi.
Le frère de Callum Smith, que tu travailles avec également, qui est présentement un des aspirants obligatoires d'Arthur Beterbiev à 175 livres.
Oui.
Mais Chris Eubank, c'est comme une vedette, mais que les gens ont hâte de voir face à l'élite de quoi il va avoir l'air. Donc, c'est quoi tu penses comme combat qu'on va avoir samedi? Est-ce que Liam Smith, à 34 ans, peut encore être un des bons boxeurs de la catégorie de poids moyen?
Moi, je pense que oui. Le combat, Matt, écoute, ça va être un combat difficile. T'sais, on peut pas niaiser avec ça. T'sais, peu importe qui gagne, je ne vois pas comment ça pourrait être un combat à sens unique de un bord ou de l'autre. Je pense que c'est un merveilleux combat de des styles différents. Et ça, c'est toujours les combats le plus intéressants quand tu as des boxeurs de tellement haute qualité, mais qui font des choses tellement différentes. Puis tu peux faire un argument aussi bon qu'un bord que pour l'autre. C'est pour ça, pour moi, je dis que c'est un combat à 50-50, ou même on peut dire 55-45 en faveur de Eubank, parce que c'est en fait Liam Smith qui monte de catégorie. Donc, s'il faut que tu donnes un petit avantage, peut-être ce sera le gars qui est déjà dans cette catégorie de poids-là, qui est habitué de boxer à 160, tandis que Smith, il boxait à 154. Par contre, le fait que maintenant il boxe à 160, il y a moins de problèmes à faire le poids, il peut manger plus, il peut être plus fort, il n'y a pas besoin de crever pour faire le poids. Donc ça pourrait être un avantage aussi. Probablement un avantage plus important si le pesée avait eu lieu la journée même du combat, mais quand même, je pense, il est dans un poids un peu plus naturel pour lui. Fait que, mais deux styles excitants, deux clash de différents styles, un affrontement de deux différents styles, je vois pas comment ça pourrait être un combat facile et je ne vois pas comment ça peut pas être un combat excitant.
Combien de personnes de Manchester?
20 000.
Qui était un des stades, je pense que Ricky Hatton a souvent boxé dedans, ouais. Je voudrais dire, et 20 000 personnes toute la semaine aussi, tu as l'impression que c'est un gros combat en Angleterre. C'est-tu vraiment en ce moment que la recette magique, ils l'ont en Angleterre quand ça vient pour faire des événements d'envergure?
Ben écoute, ils n'ont pas la recette. La recette existe depuis longtemps. C'est que le problème, c'est que beaucoup de promoteurs, ils ont arrêté d'utiliser la recette. Ils ont décidé de plus en faire un repas gourmand. Ils ont juste décidé de faire des sandwichs à bologna, puis ah ouais, ça se vend comme des petits pains chauds. La télévision va acheter toutes les sandwichs à bologna. Je pense ils ont arrêté d'être des promoteurs de promouvoir leurs boxeurs. Même aujourd'hui, on parle de le combat de Tank Davis puis Ryan Garcia. La seule raison pourquoi ce combat se fait, c'est pas à cause des promoteurs qui vont promouvoir ce combat-là. C'est parce que c'est deux gars avec un gros following sur les réseaux sociaux, puis ça parle sur les réseaux sociaux. Les boxeurs sont en train de faire le job du promoteur. Oui, ils se vendent eux-mêmes, mais le promoteur, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas besoin d'imprimer des posters. Il y a juste besoin de collecter l'argent de la télévision, payer ses boxeurs, puis tenir la conférence de presse. Là,
il organise l'événement aussi, là, je veux dire.
Ben oui, faut qu'il organise. Il engage une compagnie pour organiser les sièges, pour monter le ring. T'sais, oui, je sais qu'il y a du travail. Je suis un peu blague, qu'est-ce que je dis, mais le recette de mettre des boxeurs locaux dans un ring, c'est pour ça que je te dis demain, samedi, ça va être volatile, bon mot?
Pas sûr. Qu'est-ce que tu veux dire?
Volatile.
Ouais, volatile, c'est pas en termes de bruit, tu veux dire, c'est bruyant, c'est un gros événement.
Et excitant et émotionnel. Et les deux, il n'y aura pas juste toute l'aréna qui crie pour un gars, puis le pauvre adversaire de pays étrange, il arrive ici, puis il regarde autour de lui, il n'y a pas un chat qui crie pour lui. Jusqu'au temps qu'ils perdent. Quand ils perdent, ils vont l'applaudir et dire merci beaucoup. T'es venu faire ta job que t'es supposé de faire, de perdre. Mais là, tu vas avoir deux. Hey, dans les foules, surtout s'ils commencent à boire, là, on sait pas qu'est-ce
qu'ils vont. Une coupe de bataille dans les estrades aussi, d'après moi.
Ça risque d'être possible. Fait que, en tout cas, je pense que c'est ça qu'on a besoin plus Puis c'est pour ça que je dis que au Québec, c'est sûr que tu as des boxeurs qu'il faut que tu commences, qu'ils débutent leur carrière. OK, parfait, ils s'en vont. Mais à un moment donné, quand ils sont rendus dans des combats de 10 rondes, là, il n'y a plus de question de choisir tes adversaires, puis lui, je veux pas. Surtout quand il vient de chez vous, là, c'est ton voisin. Si t'es pas capable de faire le balayage chez vous, t'as pas d'affaire à aller sur la scène internationale. Tu sais, t'as pas d'affaire d'éviter ce gars-là pour aller, donc ici, je pense que c'est ça. Ni Smith, ni Eubank avaient besoin de cet affrontement-là. Spécialement, Eubank, parce que lui, il a la possibilité d'affronter Triple G. C'est une grosse possibilité.
Golovkin. Gennady Golovkin.
Oui. Fait que là, il prend un risque en affrontant Liam Smith. Mais ce combat-là peut se virer dans un trilogie. Admettons qu'il y a une mince victoire d'un bord ou l'autre dans la possibilité d'un combat revanche. Si ça fait, admettons que c'est un combat nul, t'es garanti un combat revanche. Donc, tout est possible. Et c'est pour ça que les fans vont acheter les billets. T'es pas capable d'avoir des billets, c'est impossible. Tu peux pas avoir des billets. Eux autres, le monde, ça va être plein.
Ouais, le terme que je cherche, le mot, c'est peut-être un intérêt émotif, si on veut. Dès que tu peux avoir l'intérêt que les gens, ils ressentent de quoi pour les deux boxeurs dans un combat, tu augmentes les chances de la popularité du combat de façon exponentielle au lieu de toujours mettre le focus sur voici notre vedette, puis là, peu importe l'adversaire. Ça peut fonctionner de temps en temps. Puis quand arrive un certain statut comme un Canelo Alvarez, ça vend peu importe c'est qui l'adversaire. Mais je trouve des fois, on va à ce stade-là trop vite qu'on vend juste toujours notre athlète au lieu de vendre le combat. C'est pas ça. Comme la NFL, c'est pas juste une équipe qu'on vend, c'est les séries, l'affrontement qu'on vend. Et des fois, je pense que là, on a oublié ça à travers les années, effectivement. Donc, on va pouvoir en parler la semaine prochaine du résultat et l'ambiance. Puis en plus, tu restes en Angleterre pour un autre combat d'envergure avec Anthony Yard et Arthur Beterbiev. Tu vas être avec le boxeur adverse, étranger, si on veut, Beterbiev, même si je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien à travers le monde de la boxe. Il va dans le territoire hostile face à Anthony Yard, comme était le cas lorsqu'il a affronté Joe Smith. Donc ça va être intéressant la semaine prochaine, mais on parle d'événements au Québec. Faisons la transition avec ce qui est arrivé à Laval la semaine dernière. J'étais sur place pour travailler avec le combat de sous-carte principale, Maslow McDennis, qui a gagné tous les rounds dans un combat 10 rounds, un combat qui a bien fait, mais que pour la suite des choses, va affronter des meilleurs adversaires en 2023, j'en suis certain, un jeune de 25 ans à 140 livres. Et Russ, le combat principal, combat d'unification de champion du monde entre Kim Clavel et Neri Plata. Je sais que tu as pu voir quand même plusieurs moments du combat, même si c'était en Angleterre. On a parlé avec Yvon Michel la semaine dernière, il y avait des gros plans pour Kim Clavel. Le gala a été très bien, le combat a été spectaculaire, mais une défaite que, d'après moi, était claire pour Clavel. On pourrait y revenir avec la décision des juges, qui était quand même en faveur de Plata, mais des gens qui étaient des médias croyaient que Clavel avait remporté le combat.
Il y avait répète ça, il y avait des gens de médias qui croyaient...
Plusieurs gens des médias ont cru en Kim Clavel ayant remporté le combat, mais moi, je pense que la confusion des rounds de 2 minutes fait en sorte que des fois, on peut peut-être s'accrocher sur quelques moments, mais les coups précis et puissants. Des fois, on peut pas juste justifier avec « Hey, si tu regardes le visage des deux boxeurs à la fin du combat, regarde qui a gagné. » C'est pas toujours aussi simple. Mais dans ce cas-ci, je pense que c'était clair quand on regardait le visage des deux boxeurs, laquelle des boxeurs a réussi à atteindre la cible plus solidement, et c'était Plata face à Clavel, mais qui a bien réagi malgré la défaite.
Mais écoute, faut que je te dise que Kim Clavel, malgré le fait qu'elle était très émotive après son combat, elle était aussi, je pense, très juste dans son analyse du combat, puis a tout de suite dit « j'aurais pu améliorer ma défensive ». Tu sais, c'est une des premières choses qu'elle a dit. Et au moins, elle est honnête avec ça. Fait que je lui donne crédit pour ça. J'ai échangé des petits messages avec elle et je lui ai dit que d'être émotif, de prendre cette énergie et cette émotion, et au lieu de te sentir désolé pour toi-même, là, de feel sorry for yourself, comme qu'on dit, tu sais, de mettre cette même énergie à rebâtir et revenir. On a tout passé par là. Tous les grands champions y ont passé par là. Il y a personne à part, mais même on peut dire Mayweather, il a passé par là dans les rangs amateurs quand il a perdu aux Jeux Olympiques, tu sais, qui se fait voler et tout, et jamais il pourra avoir une médaille d'or sur son palmarès, là, tu sais, ça lui dérange des affaires de même. Mais c'est comment un champion revient de ça. Et tous les grands champions reviennent de des défaites. Mettre cette même émotion-là. J'aurais voulu voir en Kim Clavel qu'à la conférence de presse, au lieu d'être si blessé par le fait qu'elle a perdu, que le désir de reprendre, d'avoir le combat revanche était plus fort que la déception de perdre. Est-ce que ça fait de bon sens? Qu'est-ce que je veux dire?
Je comprends ce que tu veux dire, mais des fois, c'est aussi parce qu'on a quand même des propos quelques minutes après une défaite, au lieu des fois avec une tête un peu plus reposée avec des propos différents. Mais elle semblait dire que beaucoup de gens pensaient, en raison du qualité de combat, qu'on allait voir une revanche immédiate. Mais Yvon Michel, Kim Clavel, tout le monde est pas mal sur la même longueur d'onde qu'on va le ramener dans un combat avec les dates prévues qu'ils vont nous parler la semaine dernière au printemps, mais que ça sera pas le combat de revanche immédiatement. Il faut que Kim ait une victoire ou deux avant de se remettre en catégorie, en position. Mais la bonne nouvelle, c'est que la catégorie fait en sorte que l'ancienne championne, elle peut se rebattre pour une ceinture assez rapidement si c'est son intention puis si son amour pour la boxe est encore là. Peut-être qu'elle va aussi réaliser que la passion ne sera plus là à son âge avec tous les exploits qu'elle a eus, mais ça reste à voir. Personne ne peut vraiment être sûr de comment un boxeur va rebondir, même si, comme tu as mentionné, une défaite n'est pas... C'est catastrophique dans le monde de la boxe. Ça ne devrait pas être vu de nos jours comme une catastrophe si tu es capable encore d'avoir des partisans derrière toi. Et je pense que ça va être le cas avec Kim Clavel.
Écoute, elle n'a pas subi une défaite par knockout.
Non.
Elle était quand même compétitive jusqu'au bout. Puis, comme je te dis, elle était honnête qu'elle se faisait toucher trop souvent. Ça me ramène un peu à la question que toi, tu m'en avais parlé, qu'il y avait une certaine controverse avec l'arène, la grosseur de
le ring. Parce que Jean-Luc Lejeune parlait du fait que Stéphane Roche a observé qu'est-ce qui est arrivé en début de soirée à l'aréna, à la Place Belle, que le ring était un 16 par 16 à l'intérieur au lieu de 20 par 20 qui était demandé dans le contrat. Mais Kim Clavel et son équipe n'en ont pas vraiment utilisé ça comme excuse depuis le combat.
Mais puis je pense pas non plus qu'elle a exploité un plan de match qui avait besoin d'un ring plus grand. Elle a foncé, elle voulait aller à l'intérieur, elle attaquait tout le temps, était l'agresseur, c'était souvent Plata qui se faisait reculer. Je pense que le petit ring a favorisé Clavel pour le plan de match ou la façon comment elle s'est battue. Si, mettons, elle aurait commencé le combo où elle voulait se battre, puis elle voulait se déplacer beaucoup, puis à chaque fois qu'elle se déplaçait, elle tombait d'un corps, puis là, Plata ouvrait la machine parce qu'elle se faisait toujours pogner d'un corps. Je dis, wow, elle était pas capable de bouger bien dans le ring. Mais j'ai pas vu ça dans le combat, moi. J'ai vu des corps à corps, j'ai vu elle qui voulait pas, Clavel qui voulait foncer. Donc, j'étais pour dire que ça ne devrait pas être une excuse, ça n'a pas été un facteur dans le combat. Puis si le combat avait eu lieu, mettons, là, un an, quand on était encore dans le casino avec les restrictions COVID, tu aurais eu cette arène-là, puis il n'y a personne qui aurait dit un mot là-dessus. Donc, je pense que si Kim peut ajuster à les défauts, qu'il a fait, les erreurs qu'elle a faites dans le ring, tu sais, elle peut changer l'allure du combat. Je pense que Plata a bien paru, a bien figuré, parce que était capable de toucher la cible, peut-être plus facile qu'elle pensait aussi. T'sais, elle était plus directe avec ses coups, puis la tête de Clavel était dans le centre, puis il n'y avait pas de misère à toucher solidement, et ça fait en sorte que c'est rendu le combat plus difficile pour Clavel. Puis à chaque fois qu'elle se faisait toucher, on dirait qu'elle voulait aller encore plus fort. Ça prend une certaine art, ça prend une certaine habilité, ça prend une certaine expérience d'être capable de rester proche, puis être capable de bloquer des coups et répliquer, et tu manges un coup, tu bloques, tu le presses encore pour un autre et tu reviens avec tes coups. Ça se prend pas du jour au lendemain, ça prend de l'expérience, ça prend des années.
En termes aussi de Kim Clavel, on a mentionné clairement que c'est pas la fin du monde, une défaite. Pour ce qui est de Yvon Michel, avec les plans, il misait beaucoup sur Kim cette année comme tête d'affiche, en raison que la situation de Rivas, qui est possiblement ne pourra pas remonter dans l'arène, du moins pas dans le futur proche. Marie-Ève Dicker est comme en semi-retraite depuis cette défaite face à Natasha Jonas. De Kim Clavel, elle a eu une défaite, mais a eu un très bon combat, donc demeure probablement une boxeuse populaire. Et on a également aussi la situation avec Jean Pascal, qui a un entente, mais pas vraiment son boxeur, c'est du moins comme le reste de l'écurie. Est-ce que tu penses que c'est problématique pour Yvon, qui est la prochaine tête d'affiche pour ses combats?
Ben, écoute, je pense, même si, admettons que c'était Kim Clavel, son tête d'affiche.
Oui.
Puis elle aura gagné. on n'aura pas parlé de le futur de Yvon Michel, de groupe Yvon Michel. On aura dit, OK, Clavel est encore champion. Il te reste encore une autre chance, ou peut-être différents champions, de ramener Clavel comme champion, qui sera pas différent de qu'est-ce que tu avais en tête s'il a gagné ce combat-là. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? C'est quand même Clavel qui est là. Masloum, je pense que il a montré qu'il est capable de se combattre dans des combats de 10 rondes. Imagine quelle sorte de billets, surtout après qu'est-ce qui s'est passé vendredi passé, le nombre de billets de plus que tu aurais vendu si le demi-finale ou le prochain combat, ton demi-finale ou ton combat final, c'est Masloum contre, mettons, comme quelqu'un comme Mathieu Germain. T'sais, là, tu viens de vendre au moins 500 tickets de plus, sinon 500 tickets ou plus, juste en annonçant cette combat-là. Le fait que Clavel puis Plata, ils ont fait un combat extérieur, les mêmes 4000 qui étaient là vont revenir puis ils vont amener d'autres amis. Fait que t'as une possibilité de faire quoi? Mais faut mettre des gars dans des coins, faut mettre des gars, des filles, whatever, qui vont vendre des billets, qui vont avoir un support local pour eux. Il faut qu'on arrive à ça. Je sais pas si t'as eu je pense que c'est toi qui m'as donné les nouvelles aujourd'hui comme quoi que Top Rank a laissé aller, a terminé le contrat avec Berlanga.
Edgar Berlanga, le super moyen qui vend beaucoup de billets à New York.
Il vend beaucoup, il vend la place, OK? Mais tellement qu'il est difficile à dealer avec, tellement qu'il veut pas affronter personne, tellement qu'ils ont pas vu un avenir en lui à part de le fait qu'il vend des tickets, ils ont offert des opposants pour le battre, il a refusé, ils ont dit « Parfait, tiens le contrat, on te libère. » Ça, c'est qu'est-ce qu'on devrait quasiment faire au Québec. Si vous êtes pas prêt à affronter des gars du Québec, si c'est pas dans vos plans de devenir un boxeur puis de battre certains gars locaux, on veut pourquoi que j'ai ton contrat d'exclusivité comme promoteur? Ça me sert à quoi si tu vas pas affronter des boxeurs locaux? Si t'es pas prêt à accepter ce défi-là. Et chaque combat local, oublie pas Matt, chaque combat local, surtout à un haut niveau, je parle pas des combats nécessairement de 6 rondes, malgré ça peut arriver aussi, je vais donner un exemple de ça tantôt.
Oui.
Chaque combat local peut se finir par une trilogie ou au moins deux combats. Donc, tu es garanti d'au moins deux combats. Comment tu peux pas garantir ton prochain carte avec des combats de même? Fait que, en tout cas, j'espère que Yvon, il avait l'air très réceptif quand on lui a jasé de ça. Puis j'espère qu'il pourrait faire de quoi. Je sais que c'est pas facile, là. On parle ici comme c'est facile, mais j'espère qu'il va être capable de le faire.
Bon, là, vu que tu me parles de super moyen puis tu as mentionné Edgar Berlanga, je vais terminer dans le cycle de nouvelles québécoises, si on veut. Christian Mbili, qui est un des super moyens que l'équipe voulait affronter, Edgar Berlanga avec Top Rank, et que Berlanga, supposément, voulait rien savoir d'affronter Christian Mbili. Mbili se ramasse à affronter Carlos Gongara le 23 mars au Casino sur un show qui va être sur Top Rank aux États-Unis, ESPN+. Je devrais dire pas Top Rank, mais ESPN+, qui va être au Canada sur Punching Grace, la plateforme numérique, et probablement TVA Sport, du moins en rediffusion. Je voulais savoir en temps et lieu si ça va être en direct. Et là, tu arrives avec Christian Mbili qui se positionne dans les classements de la WBC chez les 168 livres, avec un combat éliminatoire de prévu contre Ali Akhmedov. Genre d'entendre l'histoire complète, mais pour une certaine raison, ça tombe à l'eau. Là, il se ramasse à affronter Gongara qui est classé un peu plus bas dans les classements de la WBC, mais quelqu'un qui a gagné par knockout face à Ali Akhmedov avec seulement 2-3 semaines d'avis avec le combat, grand gaucher, puissant. Moi, je dis tout un vraiment Mbili, je lève mon chapeau, qui est prêt à affronter un Gongara, parce que je te le dis, Gongara, c'est pas un nom connu par le monsieur, madame, tout le monde qui suit la boxe en périphérie, mais c'est un boxeur dangereux et un style que Christian Mbili n'a jamais affronté dans sa carrière. Donc, je sais pas ce que tu en penses, Russ. Et ta situation avec Mbili, si, je sais que tu vas être sur place probablement pour minimum le broadcast. Est-ce que tu es également potentiellement... C'est comment ta situation avec le coin d'Mbili? Es-tu des fois dans le coin de Christian ou rarement?
J'ai déjà été dans le coin, mais pas récemment. Luc puis Sam, ils assistent Marc dans le coin. Fait que non, normalement, je ne suis pas dans le coin. Je ne sais pas si Marc va me demander de le faire, mais je ne sais pas si je vais être là. Mais comme tu dis, pour le broadcast, oui.
Mais l'affaire aussi avec Mbili, c'est souvent tu mentionnes comment c'est un boxeur d'une autre époque ou aurait pu boxer dans n'importe quelle époque. Pour donner crédit, mais des fois, la décision, peut-être pour clarifier avec les gens avant qu'on puisse s'entendre les nouvelles officielles, là, c'est quoi? Comment que ça fonctionne exactement de tes connaissances, une combat éliminatoire que si la WBC ordonne un combat qui est considéré final eliminator, le dernier combat avant d'avoir un aspirant obligatoire pour le titre WBC, comment qu'un boxeur peut juste refuser? Ils ont le droit de volontairement dire, moi, ça m'intéresse pas, on n'est pas capable de s'entendre.
Comme pour qui?
Dans ce cas-ci, c'était Akhmedov avec un combat éliminatoire. La WBC au Mexique a dit Akhmedov, Mbili, vous allez vous affronter en 2023. Le gagnant va devenir aspirant pour le titre à Canelo Alvarez chez les 168 livres. Du moins, numéro un, ou tu sais, après ça, tu vas te battre pour un combat de final ranking. Et là, Akhmedov, dans ton expérience en termes de boxe, as-tu déjà vu ça que le gars, l'organisation, pardon, comme la WBC, va demander un combat et un des adversaires va dire non, ça m'intéresse même pas?
Oui, ça peut arriver. Je pense un des cas le plus récent, c'est lorsque Riddick Bowe, ben je dis récent dans ma mémoire.
Riddick Bowe, c'est pas si récent que ça.
C'est ça, récent dans ma mémoire ou quelque chose que on se souvient tout de l'image de Riddick Bowe qui met son ceinture WBC dans le vidange parce qu'il voulait pas défendre contre Lennox Lewis.
Fait que, lui, il avait le titre. C'est différent. Ouais, c'est même ça. Là, c'est deux gars qui ont pas de titre mais qui ont une opportunité de se rendre un titre. En tout cas, j'ai trouvé ça particulier.
Bah.
Je vais entendre les explications d'Anthony Descarrés et Camille Stéphane.
Mais... Oui, il y a sûrement des mais les Matt, avant, tu avais l'aspirant numéro un qui était la défense obligatoire d'une champion. Il fallait absolument que le champion se défende contre l'aspirant numéro un. Maintenant, tu as le silver champion, tu as l'aspirant numéro un, puis tu as le gagnant du final eliminator pour déterminer l'aspirant numéro un. Donc, ils peuvent choisir de qui qu'ils veulent, man. Ils peuvent changer leur règlement comme qu'ils veulent. Je ne crois plus à ça. Fait que si Akhmedov, il a refusé de le combat contre Mbili, il y a un autre plan en tête, soit un autre titre, ou il va dire, OK, vas-y, Mbili, on va voir qu'est-ce que tu es capable de faire. Oh, tu gagnes le titre? Parfait. Tu as déjà battu contre Gongora, tu l'as battu. Tu as battu le champion. Donc, il reste moi qui est le prochain adversaire, le prochain aspirant. Tu vas défendre le titre contre moi. Parfait.
Pas sûr, parce qu'Akhmedov, il est classé plus bas qu'Mbili de mémoire. Et il va y avoir Benavidez, Caleb Plant qui s'affrontent. Donc, il va y avoir de la congestion à 168 livres, il n'y a aucun doute.
Fait qu'il peut toujours avoir de la congestion. Je ne sais pas c'est quoi leur plan, mais je pense que tu me demandais si qu'est-ce que ça va faire à sa carrière. Quoi? La seule chose que ça va faire, c'est qu'il ne boxera pas pour un combat de final elimination contre Mbili. C'est la seule chose que ça va faire. Même le final elimination, ça va lui donner quoi? Ça va lui donner le droit d'attendre qu'est-ce qui se passe avec la ceinture WBC. On est d'accord ou non?
Oui, c'est pour ça qu'un combat contre Berlanga à New York devant une salle comble à télévision aurait fait du sens également. Parce que c'est payant.
Puis je vais te dire de quoi? J'aurais aimé mieux voir Mbili contre Berlanga, que je trouve vendeur de billets parfait, on peut dire même extraordinaire comparé à les boxeurs maintenant qui vendent des tickets et que les gens payent pour venir lui voir. Okay, on ne voit pas trop souvent dans ce temps-ci dans boxe. Mais j'aurais préféré ce combat-là pour Mbili parce que je trouve Berlanga un peu ordinaire point de vue de boxeur. On a vu Steve Rose, je pense, qui a failli gagner, puis il aurait au pire mérité un combat nul contre Berlanga, puis ils ont pensé tout que Rose était un boxeur qui était une poire facile pour Berlanga. Mais Gongora, juste le fait qu'il est gaucher, grand, et c'est plus problématique, man. C'est plus difficile. Même si Mbili gagne, il risque de paraître mal dans le combat, tu sais, à cause de le style de Gongora. Mais Berlanga, c'était impossible de mal paraître contre lui. S'il aurait décidé de boxer, il aurait bien paru. S'il aurait décidé d'échanger coup pour coup avec, il aurait bien paru. Il aurait bien paru. Tu n'aurais pas pu demander un meilleur style. Un meilleur style pour quelqu'un comme Mbili en Berlanga.
La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe. Là. C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série balado en 5 minutes.
Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
OK, Russ, on a des questions des fans. On a comme un rafale ici, une rafale de 5 minutes environ. Donc, on doit quand même être... expéditif, oui, tu poses la question.
Avant que tu dises ça, tu es supposé de dire, après que je donne mon discours puis je donne mon opinion, tu es supposé de dire, oui, Rush, je suis d'accord ou non, je suis pas d'accord, mais pas juste rien dire puis passer à les questions des fans. Là. Soit tu es d'accord avec ce que je dis ou tu n'es pas d'accord. Oui, tu as raison ou non, Rush, tu n'as pas raison. Quand je te dis que Berlanga va arrêter le style parfait pour Mbilly, tu es supposé de dire?
Je suis très d'accord. Mais la fois qui arrive, ce que tu ne comprends pas, c'est qu'il y a des pauses dans le balado. Donc là, moi, je dois laisser du temps pour les gens d'insérer des pauses. Et si je parle constamment, ils ne peuvent pas mettre ça.
OK, mais tu ne peux pas dire « Oui, Russ, d'accord avec ça? » Et après ça, tu prends la pause, puis on passe aux questions des fans.
Tu as raison, Russ. Un vrai Steven Spielberg des directions. Je t'écoute. Bon, là, pour ce qui est, par exemple, des questions des fans, parce que tu viens de prendre du temps d'antenne à nos fans qui aiment ça nous poser des bonnes questions. Commençons ici avec Patrick Leneau. Un des excellents ring announcers, si on veut, au Québec et au Canada. Pour la question d'un combat la semaine dernière dans la carte d'ESPN+, avec Effie Ajagba, le poids lourd, pendant la carte, il y a eu une situation qu'on a décidé, la commission, on n'utilise pas les reprises vidéo. On a une situation que finalement, à cause que l'arbitre, on n'était pas certain, on a décidé de laisser la reprise vidéo. Je ne sais pas si tu peux expliquer peut-être aux partisans et qu'est-ce que tu penses en général à la question qui est demandée de Patrick de la décision ici. Qu'on a dit, la commission a dit, OK, l'arbitre a fait une erreur, nous, on impose la reprise automatique.
OK. C'est une très, très bonne question, OK? Puis j'aime ces genres de questions-là parce que c'est constructif. C'est pas juste là pour critiquer quelqu'un, même si l'arbitre était pourri dans sa décision. premièrement, moi, personnellement, je suis d'accord avec les reprises vidéo pour tous les sports. Parce que qui voudra pas avoir la vérité? Je pense que c'est un outil essentiel dans notre monde. On a la technologie pour le faire. Si le gars, il a glissé au marbre, puis on voit clairement que l'arbitre l'a pas, que le catcher, il l'a pas touché, ben, tu peux pas juste fier sur un arbitre qui fait un mauvais call, qui va déterminer une saison qui vaut des milliards de dollars parce que toi, t'as mal vu le call. Tu peux pas dire qu'un but était accordé quand le but était pas accordé. Vous avez la technologie pour faire la preuve et de pas dépendre sur une erreur humaine.
Pourquoi raison des fois, c'est parce que dans le sport de la boxe, ça arrive pas souvent, mais dans d'autres sports, ça pourrait être très long s'ils décident de prendre leur temps constamment pour voir la reprise.
Ben non, c'est pas toutes les calls, là. Tu sais, on demande
pas. Ce que je dis, parce que, ben là, selon toi, l'erreur humaine, puis on devrait pas se faire l'erreur humaine. Tu pourrais te ramasser à regarder tous les hors-jeux possibles, tous les icing possibles, des vols au but au baseball. Ça pourrait quasiment jamais finir.
Ben non, là. C'est bien que tu veux t'impliquer dans la conversation, même si t'as tort. C'est bien. Au moins que tu restes pas là comme un arbre à rien dire. C'est bien. Je parle pas pour toutes les cadres, mais les cadres qui déterminent un but, qui déterminent un run au baseball, ça, c'est des choses qu'il faut que et c'est la même chose à boxe. On check pas toutes les vidéos pour tous les coups de poing, mais quand ça détermine qui va être gagnant ou perdant à cause d'une blessure, que si c'était causé par un coup légal ou pas légal, je pense que c'est important. Et je sais que Oneida Athletic Commission à Turning Stone, c'est une réserve indienne, c'est eux qui ont leur propre commission athlétique. Eux, ils n'ont pas de révision. Pas d'instant replay. T'sais, ils n'ont pas ça. Nevada, ils ont ça. Ici, c'est dans leur règlement. Eux autres, ils l'ont pas. Guido, il a subi une grosse coupure.
Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est Jonathan Rice contre Guido. J'ai oublié son nom de famille, mais le combat de sous-carte, juste avant effet Jacques-Ba, sur les ondes d'ESPN, vendredi dernier. Et c'est un combat impliquant un boxeur, Jonathan Rice, qu'on a déjà vu au casino en 2019 face à Arslanbek Makhmoudov. Il avait perdu contre Makhmoudov et depuis a gagné 3 victoires de suite, dont vendredi dernier. Donc, Rice peut continuer avec la coupure face à son adversaire.
Puis c'était clair parmi la télévision, tout le monde, qu'un coup de poing a causé l'ouverture.
Oui.
Le combat a été arrêté à cause de la gravité du blessure. Et l'arbitre a déclaré que le coupeur était un résultat d'un coup de tête. Donc,
Benji Esteves, en plus, on connaît.
Pardon?
L'arbitre Benji Esteves, qui a déjà arbitré.
Oh, c'était Benji Esteves qui avait... OK, c'est bien. Oh, oui. Normalement, il est très, très bon. Normalement, oui. Benji, il est extraordinaire. Je l'aime bien comme arbitre. Là. Le fait qu'il fait une erreur, ça doit être une de ses premières erreurs parce qu'il n'en fait pas gros. Lui, il a collé un coup de tête qui a causé la coupure. Quand ils ont dit ça, il était prêt à déclarer Guido gagnant à cause d'une blessure. À cause du blessure, pas à cause d'un coup de tête. Carl Moretti de Top Rank, c'est là qu'il a approché la commission athlétique et il dit, les gars, tu veux pas mal paraître devant tout le monde, toute la télévision, ils ont vu que c'était un coup de poing. Tu peux pas, tu vas perdre ton crédibilité en tant que commission athlétique si tu fais pas le bon call. On te demande pas de tricher, on te demande juste de vérifier pour être sûr de ton call. Ils ont plié à leur propre règlement pour le bon de la boxe, pour le bon des boxeurs. Ça, c'est important. Ils n'ont pas juste dit, non, c'est pas dans nos règles, on peut pas regarder les vidéos, non, on n'a pas le droit, on est aveugle à ça, on garde pas ça. Ils ont dit, non, on va le checker parce qu'on veut rendre the right decision, la décision correcte. Tu comprends ce que je veux dire, Matt?
Oui,
c'est important. Et ils l'ont fait. Et tu sais, je suis content qu'ils l'ont fait. Oui, c'est triste pour Guido, qui était un boxeur de top rank, OK, parfait, mais le right guy a gagné, il n'y avait pas de trichage. Si l'autre avait, s'il avait donné la victoire à Guido, ça aurait été encore de la tricherie. Puis tout le monde aurait dit que c'est croche, puis la boxe est croche, puis c'est arrangé, blablabla. Mais ils ont décidé de plier sur leur propre règlement, regarder les vidéos pour avoir la vérité, parce qu'ils ont cette capacité de le faire, et c'est pour ça que je te dis, tu devrais l'utiliser. Et ils ont donné le bon victoire. Donc, c'est pour ça que je dis, moi, je suis pour ça, parce que ça aurait été injuste que tu ne checkais pas la vérité si tu n'es pas sûr de comment la blessure a été causée.
Parfait. Dernière question, Russ. On a 2-3 minutes maximum. Allen nous pose la question. Francis Ngannou, qui était le champion poids lourd de la UFC. OK, il ne s'est pas entendu avec une entente avec la UFC, a décidé d'aller dans une autre direction. On n'est pas capable de s'entendre sur une prolongation de contrat. Et Ngannou parle d'aller dans le monde de la boxe. Il parle de Tyson Fury, il parle d'Anthony Joshua, de ce monde. Et toi, Russ, tu ne penses pas que la transition d'être champion du UFC à champion de la boxe poids lourd, c'est aussi simple? Tu comprends bien.
C'est bizarre que tu me demandes cette question-là parce qu'aujourd'hui, j'ai eu une discussion d'au moins une vingtaine de minutes, peut-être plus, je dirais peut-être même plus à 30 minutes sur le même sujet, puis aussi sur la carte de les YouTubers qui se sont battus. Je pense que c'était ici à Manchester.
La dernière avec KSI, là, oui, il y avait également Wembley, je pense, à Londres. Mais
Wembley, c'est vrai, Wembley. Sold out.
Oui, exact.
Sold out.
On a parlé un peu avec Yvonne la semaine dernière.
Mes feelings personnels, ma croyance dans la boxe puis dans le sport que j'adore depuis l'âge de 10-15 ans, de l'âge de 10 ans que j'adore ça, elle n'a plus aucun impact sur la réalité dans le monde qu'on existe. Pour moi...
Parle de Ngannou. Là. Laisse faire les YouTubers. On n'a pas le temps d'aller avec les YouTubers. Ngannou, c'est un vrai combattant.
Parfait. Je viens à ça. Le gars m'a dit aujourd'hui, puis il a raison. Moi, j'ai dit, c'est impossible, c'est illogique que quelqu'un qui est champion d'un autre sport peut tourner vers la boxe, sauter la ligne au complet, puis... Il colle les deux plus gros vaches de lait de la division, Tyson Fury puis Anthony Joshua. Il n'a pas collé Usyk. Il n'a pas dit « Oh, je vais affronter Usyk ». Non, non. Laisse-moi, you sick, t'apportes pas assez d'argent pour moi. Moi, je veux être payé plus. Fait que moi, pareil comme Jake Paul fait avec Canelo, lui, il crie après Canelo, pas parce qu'il peut battre Canelo, parce que s'il y a une opportunité de faire ça, il va faire des millions, puis des millions, puis des, je sais pas combien de millions de dollars, parce qu'il affronte Canelo. OK? Puis s'il perd, tout le monde va dire, ben, il a perdu contre champion, hein, c'est normal qu'il a perdu. Fait que moi, je dis, c'est impardonnable que quelqu'un peut sauter la ligne puis devenir puis avoir un combat contre Tyson Fury ou Anthony Joshua sans avoir fait un combat dans le monde de la boxe.
Donc toi, tu penses que le fait que même si c'était un des meilleurs strikers dans la UFC, tu peux pas couper la ligne dans la boxe?
Non, tu peux pas couper la ligne. Ça, c'est qu'est-ce que je crois. Je crois à ça. Mais ça a l'air que c'est pas la réalité. Et comme le monsieur aujourd'hui m'a dit, il dit, Russ, il dit, ça va se vendre. Il dit, tu seras fou. Tu te rendras fou de savoir combien de télévisions bideraient pour ce combat-là. Combien de télévisions vont bider pour être le broadcaster, le diffuseur de ce combat-là. Le meilleur striker de la MMA contre le meilleur striker de la boxe et qui s'affronte, puis il dit, ça va péter toutes sortes de records de pay-per-view. Fait que, ça m'a juste dit que moi, je vis d'un autre monde et je viens d'une autre époque, puis le monde maintenant est rendu malade.
Donc, c'est pas vraiment de l'intérêt. Mais si, ce serait... OK, pour la dernière question, je vais te poser du balado. Qu'est-ce que ça prendrait pour que Ngannou gagne ton respect à aller gagner quoi? Combien de combats avant qu'il puisse après se positionner pour un combat de championnat
comme
du monde?
Comme tout autre boxeur qui ont une opportunité pour un titre mondial, tu mérites ton titre, ton shot au titre mondial.
Donc toi, tu penses que le fait qu'il était champion de la UFC avec beaucoup de knockouts, ça n'a aucun rapport avec le fait qu'il doit aller dans le monde de la boxe?
Absolument. Puis, je pense qu'on sait que ça ne transitionne pas. Ni pour le boxeur, il ne peut pas aller au MMA. Je dis pas ça non plus.
C'est encore pire, là. Mais je veux dire, la raison qu'on l'a vu, McGregor a commencé ça. Même si McGregor, Mayweather, c'était pas un combat, c'était comme plus une exhibition avec des vrais règlements, mais ça comptait pas pour les championnats ou rien de même. Mais Ngannou, ils vont dire, OK, ben écoute, si tu veux boxer, à cause du fait que tu amènes un statut énorme, on va te précipiter vers un combat d'envergure parce que ça sert à quoi que tu perds potentiellement contre un gars du top 30? Tu as perdu la
possibilité de faire Et il va perdre.
Donc, c'est pour ça qu'ils vont le mettre contre... S'ils décident de boxer, ils vont le mettre contre un gros nom.
Exact.
Assurément, parce que, comme tu dis, ils vont faire de l'argent. Tout le monde va être content. C'est pas grave s'il mérite de faire ses classes ou pas. Parce que, OK, à Makhmoudov, t'accepterais contre Ngannou demain?
Anytime. Puis il trouvera le temps long en maudit avec Makhmoudov.
La seule différence comparée à un gars comme Jake Paul qui vient de nulle part, mais après ça décide de faire des sports de combat, Ngannou, avec le fait qu'il transitionne de MMA à boxe, tu le vois des fois dans la course automobile qu'un gars de Formule 1 va aller dans le NASCAR. Je sais quand le monde dit que c'est des sports différents. Il faut quand même des limites. Là. S'il ne va pas de la MMA au golf, là. Il va dans des sports dans l'art de sport de combat, mais qui a quand même des nuances et des distinctions.
Non, ça se fait aussi dans le monde de billard. Il y a des joueurs de snooker après qui sont plus capables d'être parmi les 16 premiers au monde, t'sais, après que leur sont plus capables de tenir bout avec les meilleurs joueurs de snooker au monde, ils s'en vont jouer au neuf puis au pool, puis ils rivalisent contre ces gens-là. Tu sais, ils restent collés avec eux, mais ils dominent jamais. Tu sais, c'est un autre sport. Oui, il y a une certaine historique. Oui, il sait comment se battre, mais c'est deux sports complètement différents. Oui, il est habitué à se faire frapper, mais il n'est pas habitué à faire frapper pendant 3 minutes de temps, juste avec les mains, pas capable de retenir. Tu sais, il y a beaucoup de choses que tu es plus capable de faire. 3 minutes contre un poids lourd de classe mondiale, là, ou même, tu sais, d'un boxeur de 10 rondes. C'est pas une classe mondiale. Un vrai boxeur de 10 rondes, c'est un monde entièrement différent que le gars du MMA. Mais t'as raison, qu'est-ce que tu dis? Ça va créer d'intérêt et tout le monde va acheter le pay-per-view pour voir ça, pour voir que moi, j'avais raison.
Et là, tu parlais de billard, snooker. On va te libérer ce soir, Russ, parce que c'est là la direction. Temps d'aller jouer l'autre bord de la rue à Manchester. On te souhaite un énorme combat, le fun, pas trop de coupures, j'espère, pour Liam Smith face à Chris Eubank.
Merci.
Et après ça, on va pouvoir se reparler la semaine prochaine de ce combat et également mettre la table pour Beterbiev, Anthony Yard. Ça a bien été, Russ? Sinon, un message pour les fans du balado?
Non, j'espère que les fans de Balado vont, ils ont apprécié mes commentaires envers toi de dire oui, t'as raison ou non, t'as pas raison, Ross. Quand je dis quelque chose, au moins me dire ça.
Faut pas attends une seconde, considérant que je viens de voir ici, OK, c'est toi qui signes le chèque, donc oui, t'as raison, Ross.
Ben oui, c'est ça.
All right, Ross, on se reparle.
OK, salut.